Les ouvriers paria. Chantier en cours, de traduction en français du roman de l'écrivain américain Charles Fort, d'Outcast Manufacturer, publié en 1909. Lecture faite par un logiciel de synthèse vocale. Les ouvriers paria. Chapitre 3. Quand Sim retourna au bureau de la Universal Manufacturing Company, l'activité commerciale était là, même que lorsqu'il était parti. Madame Birtwistle n'était pas dans la pièce. Monsieur Birtwistle, allongé, dessinait des losanges au plafond avec ses pouces et ses index. Monsieur Parker ne faisait rien, Mademoiselle Guffy, en train de regarder par la fenêtre, se dressa autant qu'elle le put, la tête très en recul, et, sur un ton amèrement dédaigneux. Oh, miséricorde! Quel spectacle! Elle se croit le centre d'intérêt, mais si seulement elle pouvait se voir comme les autres la voient. Oh, on se donne de grands airs. Si elle savait seulement à quel point tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de la rue se moquent d'elle. Ne soyez pas si amère, dit Monsieur Parker jovialement. Occupez-vous de vos affaires, répliqua Mademoiselle Guffy, riant de bon cœur. Ah, Ral, mon fils, qu'a-t-on dit? Qu'ont-ils dit, Rack, mon fils? Demanda Monsieur Birtwistle, son menton sur ses mains, les doigts croisés. Je ne sais pas, dit Sim d'un air morose. Ça semble un peu inhabituel, non? Oh, très, oui. Ça ne me revient pas. Ils ont dit que c'était très honnête de votre part, et vous ont fait des éloges. Je ne veux pas d'éloges. Je n'ai jamais rien fait de ma vie pour qu'on m'encense. J'agis toujours en accord avec l'idée du bien et du mal, et n'accorde jamais aucune considération à ce qu'on peut penser de moi. Ils ont pensé que c'était plutôt remarquable, hein? Ça ne me revient pas. Mais connaissez-vous un type avec une grosse tête, dont le manteau et les pantalons sont trop courts, qui vient par ici? Je ne peux pas dire que j'y ai fait attention. Pourquoi? S'il tient à sa grande figure, férocement, il se tiendra hors de mon chemin. Je suis toujours poli envers tout le monde, et tout le monde en fait autant envers moi. C'est mes façons de faire, c'est ainsi. Je ne me préoccupe pas de ce que ce soit pense de moi, qui que ce soit, c'est ainsi. Oh, ce type a dépassé les bornes avec moi, et, oh, je ne suis pas de ceux qui passent le temps à dire ce qu'ils auraient fait. Mais si Madame Kiki n'avait pas été là, j'aurais montré à ce type. L'impertinence de ce type! Cria Mademoiselle Guffy. Comment ose-t-il? Le culot qu'il a eu! On ne peut plus dire qui on va rencontrer de nos jours, je suis sûr que vous êtes vraiment un parfait gentleman, Monsieur Rack. Ce doit être un des amis en politique de Monsieur Mkike. Monsieur Mkike est un grand politicien. Mais ils ont été un peu impressionnés, n'est-ce pas? Je lui ai dit, exactement comme ça. Il était assis là, et là j'étais debout. Je lui ai dit, écoutez bien, mon ami, vous parlez ou je parlerai, nous ne pouvons pas parler tous les deux à la fois, donc taisez-vous. Sim féroce, les paupières tombantes, comme des ongles de pouce tournés en bas, qu'on en dispose. Je ne fais plus attention à ce que je dis à qui que ce soit quand je suis remonté. Je ne cherche pas d'ennui pour chaque vétille, mais on ne m'en imposera pas. J'aime les discussions professionnelles et les affaires commerciales, dit Sim en regardant Monsieur Birtwistle avec hésitation. Si je suis engagé pour faire quelque chose, je veux savoir quels seront les gagés, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Effectivement vous voulez, cher monsieur, c'est sûr vous n'êtes qu'un gamin. Dit Mademoiselle Guffy, mais effectivement vous ne le faites pas. Voix de Madame Birtwistle le retournant à la pièce. Madame Birtwistle, avec amabilité, à Sim. Voyons, Pourquoi n'allez-vous pas à un parc avec ce que vous avez à lire, monsieur Orac? C'est étouffant ici, et vous feriez aussi bien de profiter de l'air. Non, je vais étudier ça. S'y met à sa table, devant une pile de matériel publicitaire. Ou descendez à la rivière et lisez-le là-bas. Non, merci, madame Birtwistle. J'ai commencé ici, vous voyez. Mon Dieu, mais vous ferez comme bon vous semble, monsieur Orac. Alors enlevez votre veste et mettez-vous à l'aise. Oh, c'est bien comme ça, merci. Je suis bien comme je suis. Sûrement, enlevez votre veste et mettez-vous à l'aise, dit mademoiselle Guffy. Non, je suis très bien, merci. Et vous n'enlèverez pas votre manteau? Non, je n'y prête pas attention, merci. Je suis très bien. Est-ce qu'il n'est pas obstiné? Dit mademoiselle Guffy. Sim rougit un peu, comme si l'obstination était la plus noble des qualités humaines, et il était flatté qu'on puisse voir de l'obstination chez lui. Restez à l'écart de vos voisins, vous dit monsieur Birtwistle à madame Birtwistle. Où étais-je? Puisque vous êtes si malin, où étais-je? L'étonnant, et vous avez pris du tabac à priser avec elle. Vous ne pouvez pas être avec de telles personnes si vous-même êtes déprimé. C'est un mensonge. Répondit madame Birtwistle, en frottant son nez. En tout cas, vous gardez un regard attentif sur votre femme, n'est-ce pas? Ça pourrait aussi bien être une prison d'État ici. Vous faites ce qui vous plaît, et après espionner une femme. Où j'étais? Avec qui j'étais? Si vous étiez une bonne petite femme, dit sur un ton indolent, indifférent. Vous ne parleriez même pas à de tels veaux, mais attireriez de meilleurs gens. Vraiment? Où suis-je pour trouver de meilleures personnes dans ce trou où vous me faites vivre? Comment vais-je les intéresser? Vais-je courir dehors dans les rues, et les attraper et les amener ici? Oh, oui, et je dirai, venez ici. Je suis juste le genre d'agréable personne qui vous intéresse. Eh bien, avec indolence. C'est une agréable personne, parfois. N'est-ce pas, mademoiselle Guffy? Oh, vous. Puis, après un moment, vous intéressez-vous particulièrement au journal du soir? Oh, vous. Eh bien, je peux être agréable quand vous l'êtes, et alors seulement, et... Sur mon âme, quand vous êtes déplaisant je peux l'être tout autant. Vous devriez avoir votre propre personnalité, et non pas en fonction du comportement de quelqu'un d'autre. Oh, non, je suis ce que vous faites de moi. Vous pouvez avoir un bon foyer, et tout agréable et confortable, si vous le voulez. De fait, j'ai ma propre personnalité. Je suis ce que vous faites de moi. Bon, alors, je dois être une sorte de sculpteur ou de mouleur plutôt médiocre la plupart du temps. Vous ne pourriez rien sculpter. Venez vous asseoir, dit monsieur Birtwistle, j'ai quelques grands projets. Il bougea vers le mur, et elle s'assit à côté de lui, lissant ses cheveux, débraillés et sales et les murs tachés par la fumée. La petite fille à l'allure de matrone entra dans la pièce. Elle trimballait un enfant pâle, avec une bouche affaissée d'un côté et la lampe tirée, dans une des mains serrant l'enfant, elle tenait une guenille où pendillait une aiguille du fil. « Maman arrive, madame Birtwistle. » Et allant à la chaise où madame Melody s'était assise, derrière Sim, se tortillant et se tournant dessus, pour mettre l'enfant sur un de ses genoux de façon que, avec l'aiguille et le fil, elle puisse continuer à rouler la guenille à la forme irrégulière. Chut, mon petit bébé est endormi, et vous ne devez pas le réveiller. Enfant qui a la lampe tirée, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Madame Tunant. Dans une cape propre rose, les cheveux négligés, des yeux verdâtres, bien en chair, comme avec un double canon, effet dû à ses larges narines sous un nez retroussé. Je viens de le quitter en courant, dit Madame Tunant, yeux verts d'âtre inexpressif, visage impassible, les lèvres s'arrondissant en un petit tube avec chaque mot prononcé lentement, bien pesé. Je l'ai frappé avec une chaise. Nous avez-vous entendu, Madame Birtfristl? Bien sûr que vous devez nous avoir entendu, pourquoi est-ce que je demande? Monsieur Birtfristl, râlant, lève ses jambes de derrière le dos de sa femme, pose ses jambes sur le sol, de sorte qu'il était assis à côté de Madame Birtfristl, laissant la place de l'autre côté d'elle pour Madame Tunant. Lourde narine noire de Madame Tunant, née comme un modèle réduit d'entrée de métro, narine presque perpendiculaire, et dimensionnée comme des semelles de petits pieds, des semelles de pieds de fée, dont le reste serait à l'intérieur en train d'investiguer. « Vous paraissez mince, Madame Tunant, » dit Monsieur Birtfristl. « Allons donc, qu'est-ce qu'il dit, Madame Birtfristl ?» Madame Tunant se lève, regarde dans le miroir au-dessus du sofa. « Allez, c'est parce que je porte de bons corsets, » regarde résolument son reflet, lissant ses flancs roses, puis « Et est-ce là le jeune homme, Monsieur Birtfristl ? Comment allez-vous, monsieur ?» S'adressant à Sim. « Et l'air endormi que vous avez. Vous dormez trop. » Sim rit, confus. « Et êtes-vous arrivé récemment ?» Sûr qui n'est pas irlandais, mais Yankee. Vos yeux sont collés par le sommeil. Vous devriez vous lever plus tôt le matin. Merci, Yassim, n'éprouvant pas de ressentiment, quand la confusion l'enveloppait, je suivrai votre conseil. Mais je suis heureuse que vous ne buviez pas, Monsieur Birtfristl, parce que je n'ai pas d'argent à offrir. Madame Birtfristl donnant un petit coup de coude à Monsieur Birtfristl grommelant non. Seigneur, dit la petite fille Tunant, ce grand nigaud d'enfant a répandu toute sa vie sur moi. Vrai, donnez-moi votre paquet, ma pauvre enfant. Madame Tunant prend l'enfant silencieux qui regarde fixement, et, assise, l'envoie de genou en genou. Ce n'est pas le premier coup que je lui ai donné. On était mariés depuis peine 3 jours, les lèvres formant doucement différentes tailles, de tubes courts, quand il me revient à la maison à 2 heures du matin. Lizzie, dit-il, fais-moi cuire des côtelettes de porc, c'est comme ça qu'il me salue. Je te transformerai en côtelette, à 2 heures du matin, que je lui dis. Alors, Lizzie, il dit, le moyen le plus simple est le meilleur, à moi dans mon lit, et il monte avec une chaise et me la jette dessus. Alors cette fois, vous n'êtes pas en train de mentir, mon beau pirate, je dis. La façon la plus simple est toujours la meilleure, et je le laisse allonger pour mordre la raclée, que je lui ai donnée à 2 heures du matin. Amusement général, Sim rit doucereusement, d'un rire lourd. Ce fut notre lune de miel, dit Madame Tunant sentimentalement. Un sifflement strident dans une salle supérieure. Le voisin d'à côté des Birtfristl l'appelant d'en haut des marches, « Vous ne devez pas croire qu'elle est toujours ici, Monsieur Tunant. Je n'ai pas posé les yeux sur elle du matin. Il m'appelle, » dit imperturbablement Madame Tunant. « Nous avez-vous entendu nous bagarrer, Monsieur Birtfristl ?» Ma foi, vous avez dû. Et Madame Kiké qui vient chez nous. Sur ma foi, je lui dis, quand je serai aussi vieille que vous je me calmerai, mais maintenant je profite de la vie, je le fais, et m'arrange pour donner une autre raclée à Loéi. Vous me traitez de vieille, dit-elle. Sûr, que vous êtes vieille, vous avec votre visage bridé, comme un morceau de bacon frit. Mademoiselle Guffy claque des mains et chantonne, et qu'est-ce que la vieille chose a dit de ça, Madame Tunant ? Sifflement dans la salle du dessus, et les cris de Lizzie. Lizzie. Du voisin de Madame Mayfi appelant en haut des marches, Aussi vrai que je suis en vie et que je respire, je ne l'ai pas vu depuis hier, monsieur Tunan, vraiment, et j'ai beaucoup à faire et tout, ce que je peux faire sans être dérangé. Je veux dire que j'ai assez à faire. Lizzie. Lizzie. Une porte claque furieusement. Il veut de moi, dit madame Tunan, son visage inexpressif. Il est désagréable comme ça, si je suis un moment hors de sa vue. Ils le sont tous, dit madame Birtwistl. Oh les hommes! S'exclama mademoiselle Guffy. Je les hais. Je suppose que je me marierai, comme les autres, si c'était la volonté de Dieu, mais je les hais. Je n'ai jamais vu l'homme qui vaudrait mes vieilles chaussures. Vous ne donneriez pas un claquement de doigts pour la plupart d'entre eux, tous dans le même sac. Monsieur Parker sauta, entourant mademoiselle Guffy par le cou. Vous pourriez m'avoir dans la minute, vous savez que vous pourriez, mademoiselle Guffy. Dites la vérité. Mademoiselle Guffy glousse, le repousse, je pourrais, en effet, le prix que je gagnerais. Ce serait effectivement le jour de bonheur pour moi. Retournez à votre travail, comme un homme bien, le prix que je gagnerais ne serais-je pas chanceuse. Monsieur Parker de retour sur sa chaise, laisse tomber des yeux ternes sur la machine à écrire poussiéreuse. Au travail. Dit monsieur Birtwistl, s'asseyant droit, la poitrine rentrée, son dos courbé contre le mur encore. Bon, qu'est-ce qui a été dit, Rack? Ils ont été un peu étonnés, n'est-ce pas? J'avoue, j'aurais dû attendre un mois. En vérité, j'ai besoin de ce dollar. Je dois presque admettre que j'aurais dû attendre jusqu'au mois prochain. Je suis satisfait. Il s'épate lui-même. Dit madame Birtwistl. Mais s'il avait idée comment chacun peut voir clair à travers lui. Monsieur Tunan entre dans la pièce, visage en forme de triangle, des joues rondes, jaunes qui convergent vers un nez rouge, des joues comme les côtés convexes des vieilles saucières jaunes, avec un radis coincé entre eux. Monsieur Birtwistl, s'il vous plaît. Monsieur Tunan est en train de pleurnicher, de s'excuser, de s'expliquer. À la petite fille il lui cria, « Qu'est-ce que tu fais assise ici, quand monsieur Birtwistl n'a pas de chaise ?» La giflant brutalement derrière la tête. Monsieur Birtwistl lui intime, « Laissez-la. Que voulez-vous ? Ce n'est pas une façon de parler à monsieur Tunan. » Interrompit madame Birtwistl. « Oh, Tunan. Tunan ? Voilà qui est assez intéressant. » Qui es-tu, non? Combien de fois ai-je dû le mettre hors d'ici? Que vous ai-je dit, la dernière fois que vous avez affiché votre figure ici, tu non? Oh, monsieur Birtwistl, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Birtwistl. Asseyez-vous, Lei, ce n'est que la façon de parler de monsieur Birtwistl, et vous devriez le connaître depuis le temps. Je suis sûr que Lei est une aussi bonne personne, que n'importe qui d'autre ici. Voulez-vous du feu, monsieur Birtwistl? Demanda monsieur Tunan, grattant une allumette, présentant la flamme à la cigarette à la bouche de monsieur Birtwistl, monsieur Birtwistl le laissant tenir l'allumette, mais ne tirant pas sur la cigarette. Monsieur Tunan tient l'allumette jusqu'à ce qu'il se brûle les doigts. Monsieur Birtwistl le gratte une de ses propres allumettes. Puis. Bon, asseyez-vous Tunan, mais si vous prononcez un juron ou vos grossières histoires, vous sortez. Monsieur Birtwistl, s'il vous plaît. Et monsieur Tunan s'adressant à Sim. Voulez-vous du feu, monsieur? Offrant à Sim une allumette allumée. Non, non, merci. Une allumette grattée est avancée devant sa cigarette. Pendant un moment, comme s'il approuvait les modalités de monsieur Birtwistl, Sim ignora l'allumette offerte, regardant vers monsieur Birtwistl, comme pour son approbation, Puis se tortilla et se retourna sur sa chaise, avec son faible, stupide petit rire. Merci, dit Sim Courtois sans plus de raison que son incapacité à offenser. Il n'avait pas à me frapper le dos de la tête. Se plaignait la petite fille, Monsieur Tunant se tournant alors furieusement vers elle, levant la main comme pour la frapper encore. Reste tranquille, toi, dit Madame Tunant tout en glissant d'un genou à l'autre le bébé silencieux, au regard fixe. Ida, tu ferais mieux de rester tranquille. Ida, tu as tué ton petit frère, tu sais. Pense à ça, Ida, tu as roulé sur ton petit frère, béni, pendant ton sommeil, et l'a étouffé à mort. Tu sens que tu l'as fait, Ida, et quand tu penses que tu as tué ton petit frère béni, tu ferais mieux de ne pas dire un mot. Ça l'a fait tenir tranquille. Les enfants sont le diable, dit Madame Tunant à Madame Beartwist la voix basse. La petite fille, avec l'avant-bras sur les yeux, commence à se diriger vers la porte, tout en jetant un coup d'œil à Madame Beartwist. Viens ici, ma chérie. Et Madame Beartwist l'entoure de ses bras. Viens ici, chérie, tu ne pouvais pas l'aider, et ce n'est rien dont tu peux avoir honte, qui fait qu'on te rejette comme ça. La petite fille court vers elle, tombe sur ses genoux, et met la tête dans le giron de Madame Beartwist. Là, là, chérie, ne pleure pas. Oh, je voudrais, sanglotant dans le giron de Madame Beartwist. Oh, je voudrais être grande et forte. Je les abandonnerai. C'est une honte, Madame Tunant, une honte pour vous de parler ainsi à cet enfant. Ne vous mêlez pas des affaires des autres, dit Monsieur Beartwist. Alors, demande Madame Tunant stupéfaite, serrant un moment les lèvres en faisant une forme de tube, sans parler, mais son visage n'exprimant aucune sympathie. Ça la fait se tenir tranquille, ça le fait. Se réjouis, Ida, et ne fais pas tant d'histoires, une grande fille comme toi, faire des jérémiades et pleurer comme ça. La petite fille se cramponne aux genoux de Madame Beartwist. Madame Beartwist le caresse doucement ses cheveux. Chérie, ne pleure pas. Madame Kiquet regarde par la porte. Madame Kiquet porte un chapeau égayé avec des roses rouges, un aspect comme le vestige terne d'un temple en ruine, droit et solitaire dans la plaine de Grèce, et rendu ridicule par quelques mains moqueuses, qui auraient placé en une chapellerie. Madame Kiquet paraissait être venue pour affaire, mais Monsieur Beartwist la fascinait. Monsieur Beartwist l'appuyait en arrière contre le mur, les aigles roses et violets de ses chaussons déployés sur le sol. L'homme le plus sensé de New York, dit Madame Kiquet. J'aime voir un homme qui ne partage pas l'idée de se tuer à la tâche. Voilà qui est bien. Elle recula dans le hall, et le chapeau voyant qui du coup réapparaît, l'homme le plus sensé de New York. Ida, veux-tu venir faire du shopping avec moi? La petite fille qui était sur les genoux, se relève et sort en courant dans le hall. Dieu du ciel, quel chapeau! Remarque Mademoiselle Guffy, qui était encore en train de plier des catalogues sur un planchette. Oh, je voudrais avoir de l'argent et pouvoir m'habiller. Je ferais que cette femme devienne verte d'envie si j'avais les vêtements. Ce serait mon plaisir de faire verdir cette femme. Asseyez-vous ici, Loïe, dit Madame Tunant. Monsieur Tunant. Monsieur Tunant va au rebord de la fenêtre côté ouest, se tassant sur lui-même en passant à côté de Monsieur Beartwist, comme si un joueur de balle avait lancé en faute dans un arbre au-dessus de lui, épaule et tête enfoncée, comme s'il ne savait pas où la balle allait atterrir. Quand je pense à cette vieille chose à l'étage, et à tout l'argent qu'elle a, ça me rend malade. Bien sûr, voici votre seul ami, dit Madame Tunant, déboutonnant sa cape et tirant de sous sa poitrine un sac en toile de coton, en bandoulière autour de son cou. Voilà votre seul ami, votre argent est votre seul ami. J'ai un ami aussi longtemps que j'ai ça. Bien sûr, il n'a pas beaucoup changé, ou je m'en occuperai, le sac de retour à sa poitrine. Vous conservez cette carotte sur la cheminée, Madame Birtfristl? Alors je vais la prendre et je vais la planter. Elle poussera. Avez-vous jamais vu les plants que nous, sur la fenêtre de derrière? Et c'est mortellement difficile de trouver de la bonne terre pour elle. Nous avons un adorable génarium, et sans une seule feuille morte, mais le soleil est trop chaud, et nous le protégeons avec un parapluie durant la journée. Je me demande si je devrais mettre un bâton et l'attacher dessus, Loïc, et les liserons que nous avons. Dit Monsieur Thunant avec impatience. Chaud matin, la plupart d'entre nous, les enfants et tout le monde, font une course pour voir si ce sont 2, 8, ou 12 ont fleuri ce matin. Peut-être qu'il y en a 15, alors la surprise que nous avons. Et nous avons vu de beaux plants de tabac aux abords de Fort Georges, n'est-ce pas Lizzie? C'est vrai, tous les quatre jusqu'à Fort Georges, et installé au bord de la route. Je pourrais indiquer très précisément l'endroit au bord de la route, dit avec excitation Monsieur Thunant. La plupart d'entre nous. Les yeux de Madame Thunant fixés sans expression, sur ses lèvres tubulaires. Et nous avons apporté avec nous un gâteau 4 quarts à 1500. Il y avait des bois autour. Lui a vu quelque chose courir à travers la route, dont il jure que ce n'était pas un chat. Je pourrais vous montrer très précisément l'endroit. Et les jolis petits plants que nous avons rapportés avec nous à la maison, aussi en forme que jamais une fois mise dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui vous arrive, Loïc? Il n'y avait pas de tabac, Loïc. J'ai peur que le parapluie casse le géranium. Si je pouvais les attacher ensemble, et fixer ça avec de la gomme pour plantes, est-ce que ça risquerait de casser, Monsieur Birtfristl? Évidemment, quand le premier bourgeon est apparu, nous étions tous les deux comme lors de la première dent de la petite Ida. Madame Thunant, dit Madame Birtfristl, c'est très mal de votre part de parler à l'enfant de la façon dont vous le faites. Si elle a été assez malheureuse pour rouler sur son petit frère, vous obscurissez toute sa vie en le lui rappelant. Oh là là, de l'air, femme. Très indifférente. On doit raconter quelque chose aux enfants, ou ils vous en feront voir. C'est moi qui l'ai fait une malheureuse nuit, n'est-ce pas Loïc? Un peu trop de boisson, je suppose, et je roule sur le petit béni. Dieu et son âme, moi-même, elle étouffe. Ça valait mieux, peut-être, comme dit toujours Loïc. Madame Thunant. Madame Thunant, vous allez gâcher toute la vie d'une enfant pour quelque chose que vous avez fait vous-même. Ça la fait bien se tenir quand je lui rappelle, dit Madame Thunant rationnellement. Rappelle-toi toujours que tu as tué ton petit frère, Ida, je lui dis, et alors on ne l'entend plus émettre un son. Viens, Loïc. Est-ce que je prends la carotte, Madame Birtfristl? Silence pendant un instant. Puis, faites donc pour la carotte, Madame Thunant. Viens, avec maman, ma petite poupée. Tenant le bébé silencieux, au regard fixe, contre son sac en toile de coton en quittant la pièce, s'assure, Mademoiselle Guffy, que faites-vous pencher sur votre travail comme ça? C'est comme ça que vous attraperez une bosse sur le dos. Et avec ça, les gamins vous crient bossu après vous dans les rues. Vous êtes déformée, femme, redressez-vous. Je le suis, dit Mademoiselle Guffy humblement, c'est donc la volonté de Dieu. Au revoir, Monsieur Birtfristl, dit Monsieur Thunant. Monsieur Birtfristl le regardait et ricana. Au revoir, monsieur. En s'adressant à Sim. Sim essaie de le regarder et de sourire avec mépris. Le regard de Sim est hésitant, son ricanement se change en un rictus. Sim s'agite sur sa chaise, et il dit, sur un ton grossier, « Oh, vous partez ?» Et puis tout bas, qu'étant l'approbation de Monsieur Birtwistle, c'est une bonne chose. Ceci très bas. Dit bye-bye. Dit Madame Tunant au bébé, bébé offrant un sourire incertain, affreux, les lèvres se contractant, des lèvres d'un petit corps recevant une décharge électrique. N'est-ce pas que ce n'est qu'un misérable sot-type? Dit Monsieur Birtwistle. Dans le hall, pendant qu'il était encore à portée d'ouïe, Monsieur Tunant disait, « Oh, c'est un brave homme. Monsieur Birtwistle est un véritable gentleman. Oh, quel homme bien. Guffy, dit Madame Birtwistle, où est mon chapeau? Guffy, si je peux servir à quelque chose, je vais directement à la Jerry Society, note du traducteur, Jerry Society, du nom d'un de ses fondateurs, Elbridge Thomas Jerry, elle est New York Society for, de Prevention of the Cruelty to Children, fondée en 1874, pour dénoncer ces gens. Ce ne sont pas des parents indiqués pour cette chère petite fille. Guffy, où est mon chapeau? Vous feriez mieux de rester à la maison et de ranger la pièce, grommela Monsieur Birtwistle. Je le ferai, oui. Je n'ai rien à faire qu'être à votre disposition le matin, l'après-midi et la nuit. Je fais plus que ce pour quoi je suis payé, vu que je ne reçois rien. Guffy, où est la Jerry Society? Occupez-vous de vos affaires. Dit Monsieur Birtwistle. Je veux dire, que j'ai salement besoin de ce dollar. Vous ne pensez pas, que peut-être vous devriez monter, ma chère, et expliquer à Monsieur Mkike, que nous commencerons plutôt à payer le dollar supplémentaire le mois prochain. Vous saurez comment faire ça. Effectivement, et je ne le ferai pas. Dois-je toujours être celle qui doit s'abaisser pour vous? Mais je savais comment ça finirait. Guffy, ne vous l'avais-je pas dit? Combien noble il était? Et maintenant il veut récupérer son dollar. Ce que je veux savoir, c'est si vous allez chercher un pint de bière? Pas tant que la journée de travail ne sera pas finie. Dit d'un ton ferme. Oh, le moment du médicament. Dit Madame Birtwistle brutalement. Pourquoi est-ce que ma bière devrait m'être servie à tel moment, comme un médicament? J'en veux pour le dîner. Quelle nouveauté, oh, excusez-moi, Monsieur Rack. Guffy peut y aller avec le pot, n'est-ce pas? Guffy, ça ne vous dérange pas. Peut-elle? Guffy prendra le pichet et descendra jusqu'au coin? Oh, je le ferai, vraiment, ma fille. Je voudrais, en fait, seulement. Oh, allez-y alors, dit Monsieur Birtwistle. Mais c'est la dernière fois. Aucune femme de ma maison ne doit se déplacer pour de la bière. Dans ma maison, aucune femme ne doit s'abaisser à une telle habitude, qu'on rencontre dans les immeubles. Ça peut être la coutume dans les immeubles, ici c'est mon domicile, et je suis au-dessus des us des immeubles. Je n'ai jamais eu autant d'avantages que vous, Rack, mais j'ai eu à travailler, et travailler dur, pour atteindre par moi-même ma position actuelle, oui, je dis ma position actuelle. C'est quelque chose que d'être Monsieur Birtwistle, de la Universal Manufacturing Company, croyez-moi sur parole. Dit Monsieur Birtwistle en riant de sa propre vanité. Vraiment ça ne me dérange pas. Dit Mademoiselle Guffy. Seulement, Madame Birtwistle, les gamins vont me brailler dessus, pensant que c'est pour mon compte que je vais chercher tant de bière. De toute façon, je ferai n'importe quoi pour vous rendre service. J'irai même la nuit avec plaisir. Laissez-moi y aller, interrompissime. Pas du tout. J'irai moi-même. Aucune femme de ma maison n'a à aller chercher de la bière. Il n'y a pas urgence. Dit Monsieur Birtwistle. S'étendant sur le sofa, accommodant ses rondeurs aux déformations de celui-ci. Bon, si ça ne vous dérange pas Rac. P, à demi endormi, au travail. Vous voyez, Sim balbutie, mais se force à poursuivre, je ne vais pas faire les courses pour vous, monsieur Birtwistl. Je veux dire je trouve méprisable de faire les courses pour qui que ce soit, ce n'est pas pour vous que je vais chercher de la bière, monsieur Birtwistl. Oh, en ce moment vous semblez changer d'avis à propos de tout, mon fils. Remarqua monsieur Birtwistl, mi-aimable, mi-irrité. Non, mais je veux dire. Madame Maeffy apparaît, écrit, avec une agitation enjouée. Et maintenant, où est mon pensionnaire? Qu'avez-vous fait de mon pensionnaire? Maeffy doit dîner aussi, il pense qu'il devrait sortir aller travailler un peu aujourd'hui. C'est sa conscience, il pense qu'il devrait se montrer à son travail. De toute façon, il est comme ça, consciencieux. Mais, dit Madame Maeffy, de sa voix aiguë et affectée, c'est un travail rude. Travailler dans une salle de machine. Au début de notre mariage, il avait travaillé dans un endroit où il portait des gants blancs toute la journée. Et maintenant, où est mon pensionnaire? Venez monter pour dîner, monsieur Rac. Fin du chapitre 3, à suivre. Point.